Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Les immanquables, on commence avec la résolution du jour, Alfred.
Oui, elle vient du gouvernement qui veut mettre fin au logement social à vie. Cette mesure sera inscrite dans le projet de loi logement présenté le mois prochain. Le gouvernement souhaite que les bailleurs sociaux réexaminent régulièrement la situation financière de leurs locataires. D'après le ministre délégué au logement, Guillaume Kasbarian, plus de 8% des locataires actuels de HLM ne seraient plus éligibles à un logement social s'ils en demandaient un aujourd'hui. Et en attendant, près de 2 millions de personnes attendent un logement social en France, une première depuis 20 ans.
Juliette Briens, l'affaire du HLM à vie, c'est logique ?
C'est tout à fait logique. Écoutez, moi, je ne savais même pas que ce n'était pas déjà le cas et qu'il n'y avait pas des contrôles pour voir si la personne présente dans le HLM est encore...
Susceptible de bénéficier.
Répond encore aux critères, ouais. En tout cas, d'obtention d'un HLM, c'est tout à fait normal, surtout avec la crise du logement qu'on traverse en ce moment, et les chiffres ont été très bien rappelés, sur l'attente pour des familles, de nombreuses familles françaises, pour des HLM qui attendent depuis des années, donc c'est totalement normal. Je vous rappelle que c'était, je me rappelle plus quel média qui avait sorti, qu'il y avait notamment une députée LFI qui était encore dans un... qui avait encore accès à son HLM, c'était Madame Rachel Criquet, et c'est un scandale. On peut pas expliquer ça aux Français qui attendent.
Yael.
Ah oui, je pense que c'est même urgent à prendre comme mesure. Et tout à fait scandaleux que des personnes qui répondent plus aux critères, qui sont plus éligibles pour avoir un logement social, continuent d'y rester. Le chiffre de 8% qui a été rappelé est énorme, alors que les demandes aujourd'hui n'ont jamais été aussi hautes. Donc ouais, c'est une très très bonne mesure.
Oui, c'est une saine gestion de la solidarité nationale. Parce qu'en fait, la solidarité nationale, elle est là pour vous aider à un moment où vous n'avez pas de quoi vous loger. Une fois que vous avez ensuite un métier, que vous grandissez, que vous avez votre salaire, ce qui est souvent le cas, augmente au cours de la vie, il est normal qu'ensuite vous cédiez votre place à des gens qui ont besoin de ces logements sociaux. C'est d'une logique inébranlable.
La polémique du jour, Alfred.
Elle nous vient de la provenance des uniformes livrés à l'armée, la police ou encore aux écoles, puisque plusieurs élus ont découvert que tous ces vêtements payés avec des fonds publics sont fabriqués en dehors de l'Union européenne, souvent en Chine ou au Vietnam. Le dilemme concerne notamment les uniformes à l'école en test dans plusieurs villes, dont Béziers qui paye des uniformes 200 euros pièce. La question, c'est donc de miser sur des vêtements accessibles, qu'aucune famille ne soit discriminée, même si c'est au détriment d'une fabrication européenne et française.
Juliette ?
Ah, c'est fou. Moi, je ne sais même pas quoi dire. Je ne comprends même pas que ce soit possible. Comment c'est possible ? Comment on peut ne pas privilégier, évidemment, des vêtements en provenance de France ? Je ne sais pas, je n'ai pas de commentaire.
On n'a plus d'industrie ?
Ah, alors je pense...
La liberté.
Alors, si on vient m'expliquer, rien à voir...
Attention, et de France ou...
On parle d'argent public. Hein.
De France ou en tout cas d'un pays membre de l'Union européenne.
Alors, si on m'explique évidemment qu'il n'y a pas d'alternative plausible en France,
il peut y en avoir, mais je pense que c'est...
On peut discuter, effectivement. Mais c'est quand même incroyable de se dire que les uniformes de l'armée ne sont pas confectionnés en France. Enfin, moi, je vois quelque chose...
Il y avait le cas de Levallois-Perret, tu sais... Non, c'est pas Levallois-Perret, je sais plus, c'est Béziers. Enfin, c'est une commune qui est candidate à tester les uniformes à l'école. Et dont on a découvert que les uniformes n'étaient pas faits en France, ils étaient au Portugal pour le coup. Mais la commune s'était justifiée en disant qu'ils avaient eu un délai très court pour commander ces uniformes et qu'il n'y avait aucune entreprise française qui était capable de livrer ces uniformes dans un temps si court, donc ils ont commandé au Portugal. Je crois que c'était hors Union Européenne aussi.
En l'absence de.
Mais le problème, c'est
J'ai envie de poser la question à Juliette. Entre le patriotisme vestimentaire et la bonne gestion des deniers publics, tu préfères quoi ? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu préfères ? Qu'on paye 50% plus cher quelque chose qui sera fabriqué en France ? Ou est-ce qu'on laisse l'Organisation mondiale du commerce laisser tout ça et donc permettre, parce que je présume que c'est des appels d'offres, hein, ça doit être extrêmement réglementé, et donc des entreprises basées à l'extérieur qui sont évidemment mieux disantes en termes financiers peuvent décrocher ces marchés.
Donc moi, je suis pour un protectionnisme, c'est-à-dire que je refuse que l'État français privilégie d'autres marchés plutôt que le sien. Donc, évidemment, c'est exactement la même chose pour les agriculteurs. Pas de concurrence déloyale, et je préfère que l'État français, évidemment, consomme français, achète français. Ça me paraît totalement logique.
Yael.
Pour moi, c'est un énorme loupé. Hein. Pour moi, c'est totalement incompréhensible que des uniformes pour des organismes publics, a fortiori pour les armées, soient produits à l'extérieur même de la France. Hein. Je ne parle même pas de l'Union européenne.
Pour, hein. Fois, je sais même
pour
pas
moi,
si
c'est oui. Mais c'est pas possible. Il n'y a pas d'usine de vêtements, de textiles en France.
Il y en a évidemment, mais il y en a très peu.
Alors, on nous dit qu'il faut produire, qu'il faut acheter français.
Il y en aura plus si on leur propose de faire tous les uniformes de l'armée. Peut-être qu'ils vont mettre les moyens. Non mais c'est totalement
logique. Et on est en train de redécouvrir aujourd'hui en France qu'on a tué notre industrie. Regarde ce qui se passe avec l'armement.
Ça c'est sûr.
On avait des manufactures d'armes en France, notamment la manufacture d'armes de Saint-Étienne, celle de Tulle, entre autres. Terminée, on a préféré produire à l'étranger. Aujourd'hui, on le sait avec la guerre en Ukraine. Hier, Emmanuel Macron a inauguré une usine de fabrication de poudre à Bergerac. Qu'il y a une volonté politique qui est dictée par la géopolitique, mais on a tué notre industrie, tout simplement.
Ouais.
Allez, le carton du jour.
Oui, les traditions taurines n'ont jamais réuni autant de monde à l'heure où la saison des courses camarguaises bat son plein dans l'Hérault, le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. Le nombre de spectateurs est en forte hausse. 100 000 spectateurs de plus depuis 2019 d'après la Fédération du secteur, et ce grâce notamment au succès de la carte jeune, un pass qui permet aux adolescents de venir voir les courses camarguaises pour 2 €, un moyen économique donc de transmettre cette passion aux nouvelles générations.
Précisons, Yael, que pour les courses taurines, il n'y a pas de mise à mort du taureau.
C'est une course.
Oui, mais enfin, on les maltraite quand même. Il y a de la maltraitance animale tout de même. Et puis, il y a même parfois même des morts dans le public. C'est aussi dangereux. Ah non, pour moi, c'est insupportable de voir ça. Insupportable. Je comprends pas que ça puisse être encore sacralisé. Je conçois que cela fasse partie de traditions locales, voilà, de certains territoires. Mais à un moment donné, il faut être radical et arrêter des coutumes qui sont cruelles, voilà, cruelles pour les animaux.
Mais comment tu expliques cet engouement? J'ai l'impression que plus on tape sur les courses taurines, sur la corrida, plus il y a de monde.
Peut-être que c'est un rapport avec l'augmentation de cette ultra-violence sociétale, le goût du sang, j'ai pas analysé ce phénomène, je ne sais pas.
Thierry, il faut vraiment distinguer les corridas de la course taurine. La corrida, on en a parlé ici, moi je suis totalement contre parce que c'est absolument atroce et c'est de la tordure. La course taurine, je veux bien qu'on rentre dans le débat du bien-être animal, etc., un peu ergoté, mais enfin, c'est quand même beaucoup moins dangereux et nuisible à l'animal que la corrida. Donc, s'il y a une tradition de course taurine et si ça attire du monde, moi, je vois pas beaucoup de choses à redire.
Juliette.
Bon, sur la course taurine, effectivement, c'est pas du tout la même chose. Sur la corrida, Mon cœur a balance. Je ne suis absolument pas pour l'interdiction de la corrida. À titre personnel, je n'irai pas voir une corrida. Je ne pense pas. Ou alors, j'irai peut-être un jour juste pour au moins me faire mon propre avis sur ce que je vois. Je pense que c'est quand même bien, mais je suis pas une fan effectivement de ce genre de sport et de la mise à mort d'un animal. Ça m'attire pas. En revanche, pour moi, c'était pas du tout une priorité d'aller interdire cette tradition effectivement ancestrale qui réunit beaucoup de monde et qui n'est pas que porté sur la violence, quoi. Je veux dire, quand on regarde, moi j'ai vu quand même des images du corrida, il y a aussi beaucoup de beauté, il y a aussi beaucoup d'élégance, il y a aussi beaucoup de traditions qui s'inscrivent dans cette tradition là. Ce n'est pas que la l'ultra violence et la mise à mort de l'animal, donc voilà.
Les livreurs du jour, Alfred.
Oui, et là, on va parler ni d'Uber Eats, ni de Deliveroo, mais bien de La Poste, qui va intensifier son activité de livraison de repas à domicile. D'ici 10 ans, ce sera d'ailleurs la première fonction des facteurs, c'est ce que prédit le groupe, qui doit donc se réinventer, parce qu'aujourd'hui, le chiffre d'affaires issu de la livraison de courrier ne représente plus que 15%. La Poste veut donc mettre à contribution sa flotte impressionnante de 65 000 facteurs pour la distribution de repas à domicile. Sachez qu'en 2023, le groupe Postal a déjà livré 5 millions de repas.
Bon, reconversion d'une entreprise.
Mais c'est formidable, parce que je pense qu'il faut bien comprendre que pour certaines personnes isolées ou âgées, le contact avec le facteur, c'est la seule personne vivante qu'il voit dans la journée. Donc que cette personne soit en plus là, en offrant d'autres services que la livraison du courrier, qui effectivement est en baisse, parce qu'aujourd'hui, de moins en moins de gens envoient de courrier par la poste. Je trouve ça très très bien. Et alors évidemment, ça va nécessiter des formations, donc il faudra faire attention à ce que ça soit bien fait. Mais c'est une formidable.
Bah après, tu vois, formidable opportunité. J'imagine hein, le facteur, comme on disait avant. Il arrive avec sa camionnette, qui sera adapté, qui est adapté pour, forcément.
Oui, c'est ça. Faut adapter pour, faut qu'il y ait une formation. Faut qu'il y ait une formation, d'ailleurs, qu'ils ont, parce que on voit bien que les facteurs, ils sont toujours très en empathie avec les gens chez qui ils vont. Et s'il y a une vieille dame, ils aident à faire des choses. Enfin, moi, les facteurs que j'ai eu chez moi, ils ont toujours été formidables.
J'ai pas compris comment ça marche. Ils viennent d'où les repas?
Ah ben, ce sera des sociétés qui vont livrer les repas à la poste et la poste va les livrer.
D'intermédiaire, de livreur.
Oui, ça sera payant,
mais
c'est
Uber Eats national.
Non, mais ça sera payé soit par l'assurance maladie si c'est de la livraison à une personne âgée ou handicapée, par exemple.
D'accord.
Tu vois?
Qu'est-ce que t'en penses?
Je sais pas.
C'est un service d'aide à la personne.
Moi, je suis très très attachée aux facteurs et aux factrices. Je trouve que c'est un lien humain qui est absolument essentiel pour beaucoup, que ce soit pour les personnes isolées ou les personnes âgées. Et il est vrai que ils ont moins de boulot. Donc s'ils peuvent bénéficier d'une reconversion, je dis c'est une pourquoi pas. Enfin, ça me semble être une bonne idée.
Ça va caser 65 000.
Je sais pas.
Enfin, ça me paraît quand même énorme.
Mais en fait, la Poste en fait a un maillage territorial tel que ce maillage peut être mis à disposition. Mmh. On va avoir de plus en plus de gens qui vont avoir besoin, ne pouvant plus se déplacer parce qu'on va avoir de plus en plus de centenaires et de personnes âgées.
C'est un marché d'avenir.
C'est un marché d'avenir. Donc si on forme et si c'est pris en charge en partie par la collectivité comme la livraison de repas à domicile pour les personnes âgées, c'est formidable d'utiliser ce maillage de la Poste. C'est génial.
Bon, je pense qu'on a fait le tour.
Facteur,
évidemment.
Allez, bravo facteur.
Merci à vous d'avoir été avec nous dans Estelle Midi.